Je suis bien content d'être avec vous la soir pour vous parler donc de celui qui est considéré comme le très grand réformateur de l'anatomie humaine. Et je vais vous faire un aperçu sur la vie et l'œuvre d'André Vessal, l'influence de son livre majeur qui s'appelle « Le De Humani Corporis Fabrica », analyse de ce livre, et je prendrai l'exemplaire que nous avons, nous, la chance à Reims d'avoir. Car c'est un livre, je vous expliquerai après, ça aussi sa rareté. Alors, l'œuvre d'André Vessal fait partie, si vous voulez, de ces chefs-d'œuvre de la culture occidentale qui, de siècle en siècle, attire toujours les lecteurs, mais ceux-ci, hormis les historiens de l'anatomie et des sciences, ont un tout autre regard que le seul intérêt scientifique, regard tourné surtout vers l'art en raison des figures que j'ai qualifié d'animés, mais en fait pour que ce soit réellement animé, il faudrait que ça bouge, mais vous allez comprendre très rapidement le pourquoi, illustrant les propos de Vessal. On pourrait avancer pour preuve que le texte même de Vessal n'a eu guère de succès par rapport aux planches, qui du vivant même de Vessal ont été aussitôt plagiées dans toute l'Europe. Certes, le texte n'ajoute guère par rapport à Galien, tout du moins dans la première édition de 1543. Donc on est vraiment au milieu de la période de la Renaissance, expliquant en partie la deuxième édition d'ailleurs de 1555. À l'origine, le De Humani Corporis Fabrica, je dirais souvent la Fabrica, est une œuvre fondamentale d'André Vessalius, je donne le nom, la version latine, fut déterminée par un phénomène spécifiquement italien. Raison en partie de ma venue à votre cher Accorfi, c'est-à-dire l'engouement pour connaître le corps humain, comme on le verra par exemple à Padoue, Rome, Milan et Florence. Cette passion est commune aux anatomistes et aux artistes italiens, comme le démontrent déjà les études de Léonard de Vinci, que ce que vous a démontré autrefois notre ami Claude Viviani. Toutefois, dans le cas de Léonard de Vinci, alors là je vous ai mis une page en couleur qui a été coloriée ultérieurement du De Humani Corporis Fabrica et qui est un ensemble qui est en rapport avec l'école du Titien. J'expliquerai, je donnerai quelques détails. Et maintenant, Léonard de Vinci, qui a été aussi un artiste très important sur l'anatomie. Toutefois, dans le cas de Léonard, on sait qu'il a beaucoup étudié sur l'anatomie de Mondinus. Et Mondinus, c'est un anatomiste, si vous voulez, de l'ancienne période. On n'ose pas trop dire d'ailleurs les médecins italiens, puisque dans un mouvement d'humeur, Vessal lui-même a écrit qu'il n'avait jamais vu un de ses collègues italiens disséquer. En revanche, des artistes comme Antonio Pollaiuolo, 1433-1498, donc la période précédente, disséquaient volontiers et certains artistes sont morts des conséquences de piqûres anatomiques, comme par exemple le cas de Ludovica Cardi, dit le Cigolli. Lui, je vous donne les dates, 1559-1613. Il reste que Vessal a su lui créer une alliance entre la médecine et les beaux-arts. Un point plus surprenant dans cette introduction, c'est que la plus belle édition de l'œuvre de Vessal et de ses planches date vraiment de 1935, par la maison d'édition Lehmann, située à Munich, car elle fut réalisée avec les bois originaux de la Fabrica de 1543 et aussi quelques-uns de 1555, retrouvés miraculeusement et remarquablement conservés à la bibliothèque de l'Université de Munich. Grâce à l'emploi, il faut bien écouter ce que je vais dire, et c'est là qu'on va voir l'apport des temps modernes, grâce à l'emploi donc d'un papier spécial, de rouleaux encreurs, qui n'existaient pas à l'époque de Vessal, et de presses métalliques, on obtient un résultat exceptionnel, impossible à envisager, du temps de Vessal. Mais malheureusement, les bois originaux ont disparu à jamais dans les bombardements et l'incendie de l'Université de Munich entre le 13 juillet et le 16 juillet 1944. Donc, ce que vous avez sur là, la droite, vous voyez là, une impression du temps des Halles et celle après les Mannes. On voit que le dégradé pour figurer les muscles est nettement mieux rendu. Malheureusement, on a tout perdu. On sait que les bois sont partis en gros de Venise, ont été vers Bâle, le lieu d'impression, sont retournés vers Augsbourg, ensuite Ingolstadt et finir à Munich. Toutefois, il faut convenir que le grand Fernel, inventeur du mot physiologie en 1545, et là je vous ai mis une belle figure montrant, c'est un bois, une gravure sur bois de l'époque, de Fernel en train de donner une leçon, et ensuite son fameux Universa Medicina. Il avait déjà fixé les limites de l'anatomie qui ne peuvent montrer que le siège des maladies, mais non leur nature. Problème qui ne préoccupa guère Vésale. Parfois, celui-ci devait trancher sur certaines questions, comme par exemple la fameuse existence d'un rete mirabile. Alors, c'est un réseau, si vous voulez, veineux qui entoure en général une artère ou deux et qui permet une sorte de réchauffement. Et par exemple, ça existe officiellement chez le mouton. Mais dans le cas de l'être humain, ça n'est pas le cas et il a réfuté cette hypothèse. Mais par contre, il se trompe complètement dans le décompte des nerfs crâniens où c'est leur présence, par exemple, qu'il avait supposé de pores dans la cloison interventriculaire. Donc sur le plan cardiaque, ça avait son importance. On se doit de constater que déjà Berengario da Carpi ou Niccolo Massa, deux grands anatomistes, sont plus explicites que Vésale. Et là, je vous ai mis une figure sur bois, une xylographie, montrant, et vous allez le retenir, un squelette qui est beaucoup plus convenable que ce qu'on voyait antérieurement au XIIIe et XIVe siècle, en train de tenir un crâne vu par le dessus et un crâne vu en profil. Et si vous voulez, il y a déjà, malgré l'époque, une certaine animation dans la façon de présenter. Donc on ne peut pas dire que Vésale est le seul inventeur de cette façon de procéder. Et on peut observer aussi combien les fameux Anatomicarum Gabrielis Fallopi, donc Gabriel Fallop, auteur de ses observations et examens, écrit en 1564, n'ont pas été appréciés par Vésale à leur juste valeur, car il négligeait volontiers ce que les autres découvraient, encore plus si c'était un de ses anciens élèves, comme dans le cas de Fallop. Donc c'est pas toujours, c'est comme bien des maîtres même de maintenant, des fois quand l'élève dépasse le maître, il est souvent rejeté. Alors là, je vous ai mis un beau portrait de Vésale qui est à Dijon et qui est, vous le comprendrez, je vous le montrerai tout à l'heure, l'origine de ce portrait. Et vous avez également, au côté droit, ses armes, les fameuses belettes. Donc là, c'était un homme qui est quand même mort, vous le verrez dans quelles circonstances, dans la cinquantaine, et ce portrait a été fait en fait à l'origine sur celui qui existe dans la fabrique. Alors on va faire connaissance avec la vie et l'œuvre de ce divin Vésale, comme le dénommait même Gabriel Fallop. Alors Fallop s'écrit de différentes façons. Il y a des fois deux L et deux P, des fois un seul L et deux P, des fois deux L et deux P, enfin tout est possible. Sa famille est originaire de Vésale, dans le duché de Clèves. Elle est brabançonne depuis quatre générations, depuis les Van Vésale avec un W, car Vésale abandonnera le W plus tard pour le V. Son père est donc Andreas Van Vésale, 1479-1544. Sachez que ce personnage est en fait un fils naturel qui fut légitimé bien plus tard, en octobre 1501, soit 17 ans après sa naissance. Il ne naît pourtant pas dans n'importe quelle famille, car son père fut l'apothicaire de Marguerite d'Autriche et de Charles Quint. Néanmoins, cette naissance illégitime avait interrompu une lignée accoutumée à fournir des professeurs à l'université de Louvain, qui est une université fondamentale, et aussi des médecins à l'empereur. Vésale en fut vite conscient et s'empressa, par la suite, de renouer avec ce passé dès qu'il le put en dédiant certaines de ses œuvres à de grands personnages. Et je vous donne quelques exemples, comme le prouve un envoi, par exemple imprimé, à son maître Nicolas de Florennes, le médecin impérial aussi, ou comme son épitome dédié au futur Philippe II, et surtout sa fabrica destinée à Charles Quint même. Devenu ensuite le médecin de l'empereur, Vésale sera fait comte palatin en août 1556 et portera alors son fameux blason avec les trois belettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et il épousera, malgré ses réticences sur le mariage, Anna van Ham, dont il aura une fille, Anne, née en 1545, ce qui nous a permis de retrouver son écriture dans une de ses lettres à son beau-père, mais aussi sur un certificat qu'il avait fait pour un évêque de Limoges, mais ambassadeur de France, Sébastien de Laubépine, qui était à l'époque en Espagne. Alors voilà, vous avez tout en bas la signature de Vésale qui figure ici, et vous avez là cette lettre qui est en fait une dispense pour ce prélat, afin qu'il ne fasse pas carême. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, je ne dis pas que c'est un certificat de complaisance avec les grands, il fallait faire très attention. Vésale a suivi comme écolier à Bruxelles l'enseignement classique, ce qu'on appelle le trivium, grammaire, dialectique et rhétorique. Puis au Pédagogium Castrense de Louvain, en février 1530, il y apprend la philosophie naturelle dans le fameux ouvrage La Margarita Philosophica de Georges Reich, qui a été édité d'ailleurs à Strasbourg en 1504. Et ça, c'est un des grands livres de Strasbourg. Alors, c'est une sorte d'encyclopédie occidentale, qui contient d'ailleurs un chapitre sur le corps humain, avec une anatomie imaginaire dont Vésale se moquera grandement. Au collégium trilingue, il acquiert une bonne langue latine et grecque, mais il ne sera vraiment jamais un vrai trilingue connaissant l'arabe et l'hébreu. Dans cet endroit studieux, il sera déjà l'élève du célèbre Gunther d'Andernach, qu'il va retrouver lors de ses études à Paris, car en 1533, il se rend à Paris avec un ami d'ailleurs d'originaire de Strasbourg qu'on appelle Jean Sturm, où certes le galanisme, comme c'était à l'époque, est de mise, mais on y dissèque à Paris. Et on connaît les travaux, par exemple, de l'italien Niccolo Massa. Il aura des maîtres, comme Jean Fernel, dont je vous ai montré tout à l'heure un portrait, qui plaçait l'observation et les recherches personnelles comme essentielles. Mais il y avait aussi le très écouté Jacques Dubois, dit Silvius, maître au sens prononcé de la synthèse, et c'était une des grandes qualités de ce maître. Et je vous montre là deux choses. Un portrait de Silvius, qui a été donc un des grands professeurs à la faculté de médecine de Paris, et à côté, un de ses ouvrages qu'il avait lui-même annoté pour en faire une réédition ultérieure. Donc voyez quel soin. Vous remarquerez aussi en bas des tableaux à collade pour lesquels j'avais fait une très grosse recherche autrefois sur tous les tableaux à collade de la période du XVIe siècle. Et tout ça, c'est dû à Pierre de la Ramée, donc qui après a dû à la Saint-Barthélemy quitter le pays, tout ça, et qui a été bien sûr soupçonné d'être un réformé. Mais alors, il retrouve aussi, en dehors de ce maître, Jean Tagot, qui a été un très grand chirurgien, et encore à nouveau, Gunther d'Andernach, qui était devenu depuis docteur régent de la faculté de médecine de Paris. Alors, à la faculté, Vésale y fréquente aussi des gens qu'on va retenir après dans l'histoire de la médecine, souvent des anatomistes, comme Rondelet, Michel Servet. Alors vous savez que Michel Servet a été brûlé à Genève dans des conditions atroces, puisqu'ils avaient mis un bois qui était vert pour le brûler, et qu'au lieu de brûler d'un seul coup, il a fallu trois quarts d'heure. On l'a entendu hurler pendant trois quarts d'heure. Et tout ça dû au dénommé Calvin, qui n'a même pas été de... Bon, là je ne reviens pas là-dessus, parce que je ne veux pas faire une guerre de religion, mais la façon dont cet homme a été supprimé est épouvantable. Il y avait aussi l'anatomiste français Charles Étienne, mais aussi des botanistes spécialisés dans les plantes médicinales. Léonard Fuchs, Conrad Gessner, l'Espagnol Andrés Lacuna, qui ont tous laissé des œuvres impérissables dont les livres valent maintenant une fortune. Alors, chacun a repris après le lieu, et on les retrouve plus tard dans l'histoire de la médecine. Là, ils ne sont qu'élèves. Le brillant Fernel, que je vous remontre là, a dit des choses fort intéressantes. C'est pour ça que j'ai mis un petit texte au début que je vous lis. Comme la médecine discute et explique, écoutez bien, l'admirable structure Où fabrique. La fabrica, le terme dans, à l'époque, vient de là. Et nature de l'homme, etc., etc. Alors, c'est un fervent anatomiste aussi, ce Fernel. Il a décrit le canal épandimère qui borde la moelle épinière au niveau du cerveau. Et ce canal échappera d'ailleurs à Vézal, et non à l'anatomiste français Charles Étienne. Je vous remémore que Michel Servet a été aussi à la fois le médecin qui décrira succinctement, et c'est pas les, quelque chose de minime, la petite circulation. Mais il faut reconnaître que ce sont les Arabes, au 9e siècle, entre le 9, la, disons la fin du 9e, début, tout début du 10e, qu'on décrit avec Ibn Nafis, la petite circulation, mais Servet l'avait complètement réhabilité dans le livre avec lequel il a été brûlé, c'est-à-dire le Christianismi Restitutio ad Integrum, car on brûlait le personnage avec toutes ses œuvres, etc. Donc il n'en reste plus que 3 exemplaires au monde. Un à l'université d'Édimbourg en Écosse, un à la bibliothèque de Vienne en Autriche, alors que le livre a été imprimé à Vienne dans l'Isère, et un noté par un avocat genevois Germain Colladon à la Bibliothèque nationale de Paris, et cet exemplaire est très émouvant parce qu'il y a encore les traces de feu, donc c'est quelqu'un qui l'avait extrait du bûcher, il avait bien fait. Alors, je rappelle que Servet, c'est surtout en raison de son rôle de théologien qu'il a été brûlé vif et que, malheureusement, il ne nous reste que peu d'exemplaires. Ça a été, il y a eu quelques-uns qui avaient refait une édition ultérieure, le fameux Van de Mur, mais le livre de Van de Mur est encore aussi rare que celui de Servet. Toutefois, on sent déjà, par exemple, que Vézal s'affranchit quand même du galénisme qu'affichait nettement Sylvius. Et la discorde va éclater au point que Sylvius rédigera un pamphlet contre Vézal dans un texte dont je vous donne seulement la traduction, qui signifie « Réfutation des calomnies dirigées par un certain fou furieux contre l'anatomie d'Hippocrate et Galien ». Vous savez, toucher à Hippocrate et Galien à l'époque, c'était tout à fait donner des périls dans la maison. Une solide preuve du mépris qu'aura d'autant Vézal pour Sylvius nous est fournie par le fait que le nom de Sylvius disparaîtra totalement de la seconde édition de la Fabrica, donc celle de 1555, qui n'énonce les calomnies et arguments entièrement faux de certains vieillards malfaisants rongés par leur malveillance. Pourtant, le séjour à Paris fit de lui un anatomiste passionné qui percevra encore mieux les œuvres de Galien et leurs défaillances. C'est ainsi qu'à 20 ans, il fa faire sa première découverte sur le fait que la mâchoire inférieure était un os unique et non double, comme le disait Galien. Il avait décrit aussi un peu auparavant le corps jaune de l'auvergne. Mais la guerre entre François Ier et Charles Quint oblige Vézal à retourner à Louvain en août 1536. Et en 1537, l'année d'après, il soutint une thèse pour son baccalauréat en médecine dédiée à son maître Florenne, qui s'appelle les Paraphrasis in Nonum Librum Rasae, Medici Arabis Clarissimi ad Regem Almans Sorem, c'est-à-dire le grand allemand sourd, où il conclut à la supériorité de la thérapeutique galénique. Il avait d'ailleurs participé à une édition savante. Alors là, je vous montre le rare exemplaire de la Bibliothèque nationale où vous voyez les traces de feu sur cet exemplaire. Et puis ensuite, voilà le livre dans lequel je vous ai mis une petite flèche qui monte Andream Vesalium Brucensem. Voilà, de Bruxelles. Alors, on va aborder sa venue à Padoue. Car à Paris, Vézal avait entendu parler des recherches anatomiques menées dans le nord de l'Italie, dont Padoue, qui se distingue par sa prestigieuse université ouverte aux hommes de toutes les nationalités et de toutes religions. Et là, je vous ai mis une gravure ancienne de l'université de Padoue, et ensuite, je vous ai mis quelques personnalités qui l'ont fréquenté, comme le dénommé Galilée, dont on voit la chair en bois à l'université de Padoue, et aussi un dénommé Nicolas Copernic, qui à lui tout seul a fait une véritable révolution dans cette affaire. Passant par Bâle, probablement en mars 1537, il arrive ensuite à Venise, dont Padoue dépend, pour devenir finalement docteur de Padoue le 5 décembre 1537, comme son bisaïeul d'ailleurs, Jean de Vésalia, en 1427. Il fut perçu comme extrêmement brillant, et ce fut pour son doctorat une procédure exceptionnelle, car il n'a subi que 3 examens sans soutenir de thèse. Probablement du fait d'avoir collaboré fortement aux fameuses institutionnaises de Gunther d'Andernach, dont je vous ai mis ici, annoté par Vésal, une page de l'exemplaire de ce fameux travail. Et on le voit, le lendemain même, devenir l'explicateur, c'est-à-dire le professeur, en chirurgie, en remplacement de l'anatomiste Paolo Colombo. Alors, je vous ai mis ici, quand on est dans l'intérieur de l'université de Padoue, auquel j'ai eu la chance d'aller à un grand congrès international d'histoire de la médecine, vous avez une immense salle avec partout ces armoiries. Et on ne voyait pas, bien sûr, celle de Vésal, parce que, je viens de vous expliquer, il en a été dispensé. Donc il n'y avait aucune raison qui laisse ses traces. Mais quand vous êtes dans cette salle des actes et que vous avez tout ça autour de vous avec des noms aussi extraordinaires, vous êtes très très impressionné. En tous les cas, ce qui lui est arrivé est vraiment exceptionnel, témoignant donc des capacités inouïes du personnage. On connaît par les notes et croquis d'un étudiant, Vitus Tritonus Athésinus, le déroulement de ses premières leçons qui s'étalèrent du 6 au 24 décembre 1537. Et c'est Vésal qui pratiqua lui-même, chose rare, la dissection. Dissection laissée d'habitude aux barbiers chirurgiens de service. Donc ça, c'était très rare. Il pratiqua lui-même avec les risques que ça comportait, mais il l'a fait. Le succès fut retentissant d'autant qu'après la fin des dissections, Vésal assembla complètement le squelette grâce à des fils métalliques. Puis il donna l'année suivante des cours de pathologie sur le phlegmont et l'inflammation avec leur traitement. Au début de 1539 parut la fameuse lettre sur la saignée, et elle nous intéresse parce qu'elle fait allusion aux 26 démonstrations anatomiques faites à Bologne dans le courant de l'année 1538. Bologne, c'est peut-être même la plus vieille université de l'Europe. Et l'Alta Mater, comme on dit toujours, et que l'on connaît par les notes de l'étudiant qui s'appelait Baldassare Esler, un étudiant qui était né en 1508 et qui est décédé en 1567. Et on sait qu'il disséqua en plus un singe dont le squelette fut aussi monté. Alors, c'est le retour à Padoue, où Vésal participa à la deuxième édition latine, celle de 1550. Alors, oui, là, j'ai mis une petite représentation d'une scène où on voit effectivement un barbier en train d'ouvrir un cadavre, hein, vous voyez, et puis au-dessus, il y a le maître qui donne toutes les explications. Et là, il y a un paysage qui montre que l'année 1502 avait assimilé tous les livres de la fin des années 1493, Tressa, où des fois il y a des fenêtres fermées, on voit une fenêtre s'ouvrir dans d'autres exemplaires, et on commence à voir les paysages dans le fond. Ça, c'est pour l'histoire de l'art, parce que les artistes s'auto-influençaient. Et ensuite, je vous montre donc l'exemplaire des Opéra Omnia de Galien, la deuxième édition, dans lequel une très belle présentation par les Geintes. Les Geintes étaient des très grands maîtres imprimeurs de Venise. Donc, les Opéra Omnia de Galien, c'est très très important, et les médecins essayaient toujours de posséder cela, avec les fameuses tables après de Brassavol. Alors, ça avait été supervisé par deux professeurs de Padoue, qui étaient Gadaldino et Damonte. En octobre 1541, Realdo Colombo, l'élève de Vésal, reçoit une deuxième chaire parallèle de chirurgie et succédera à celui-ci lors du départ de Vésal pour Ferrare, où il savait que son propre frère fréquentait l'anatomiste Giovanni Battista Canano, célèbre pour ses planches myologiques. C'est donc un anatomiste qui ne s'est intéressé qu'à la myologie, et je vais vous montrer une planche, mais pas une xylographie sur cuivre, ce qui est déjà quand même assez innovant à l'époque et beaucoup plus pratique. C'est assez rare. On a, il n'y a pas beaucoup de livres de Canano qui nous restent. Puis on en arrive à la création et maintenant à la rédaction de la Fabrica, qui a été composée entre l'hiver 1539-1540 et l'été 1552, qui est la date de la dédicace. Le terme de Fabrica s'explique fort bien par le texte de Fernel que je vous ai montré antérieurement sur l'anatomie. Il est certain que tous les bois gravés de l'épitome et de la Fabrica, parce que l'épitome est un petit raccourci, si vous voulez, des figures anatomiques. Et les gens qui avaient moins de moyens achetaient volontiers l'épitome, parce que la Fabrica, c'est un livre énorme. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour vous montrer les dessins, on va faire passer dans la salle, vous me le rendrez bien à la fin, vous aurez un aperçu de ce que représentent toutes les figures de la Fabrica. Alors, les bois gravés de l'épitome et de cette Fabrica correspondent donc à toutes les planches, et c'est pour ça que je vous fais passer l'ouvrage, et lettrines, parce que chaque lettrine avait été gravée sur bois aussi, et elles ont été exécutées par des artistes expérimentés, vénitiens, éventuellement italiens, mais un seul graveur italien, ce dont on est certain pour la Fabrica. Ils ont tous été dessinés donc, et gravés dans l'atelier du Titien, dont faisait partie celui qui est le plus concerné en raison de l'épitome, qui est un peintre flamand, de la même région d'ailleurs du duché de Clèves que Vézal, Stéphane van Kalckar. Alors on peut le voir écrit C-A-L-C-A-R ou K-A-L-K-A-R. Et Kalckar, voyez par exemple ici, signait son ouvrage d'épitome de 1538, avec ce petit dessin magnifique dont il est l'auteur. Mais si ces bois furent expédiés avec les manuscrits par l'intermédiaire du marchand milanais d'Annoni, c'est d'ailleurs le reflet que les marchands étaient le moyen important de véhicule de toutes les formes de livres ou de savoirs, ou etc., à travers l'Europe. Ils ont surtout été précédés d'une lettre de Vézal envoyée à Bâle, à l'imprimeur, humaniste et professeur de lettres, grec, Jean Oporin. Donc Jean Oporin, je l'ai pris sur l'exemplaire de Vézal, vous avez sa signature ici, comme quoi ça sort de son imprimerie, de son officine. Cette lettre du 24 août 1542 nous apprend bien des souhaits du célèbre anatomiste. Ainsi, il s'exprime en latin, langue des humanistes, employant certains termes qui semblent nous donner une précieuse indication concernant les fameux bois pour les gravures. Inter tabularum seriem, dit-il, c'est-à-dire une suite de planches que je vais vous montrer. Alors là, j'ai pris un montage parce qu'il faut faire très attention. Je ne vous montre que la moitié des personnages que vous allez voir dans l'ouvrage. Je vous en verrai certainement d'autres que je vous montrerai à la fin. Mais je vous demande de faire attention au paysage du fond, car vous voyez que chaque bois qui monte au moins jusque-là, hein, avec le personnage complet, a un fond qui, vous voyez par exemple ici, on sait très bien que ces arcades se raccrochent à l'autre, que les paysages correspondent. Il n'y a que pour celle-ci, on a des fois des avis différents. Alors c'est assez surprenant, extraordinaire, mais ça laisse supposer que pour faire ce genre de choses, il l'a peut-être fait sur un seul grand bois et coupé à la scie après, ce qui fait que parfois on pourrait discuter un petit peu les interfaces. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la dynamique. Alors ça correspond soit de la myologie, soit au squelette, donc on se raccroche à cela pour bien les remettre dans l'ordre. Mais on sait où est le paysage, et je vais vous le prouver. On est dans la région de Padoue, donc d'Abano-Terme, pour certains qui ont été dans le coin. Et vous allez tout de suite voir pourquoi, parce qu'on a les villas palladiennes, etc. Et dans les congrès, c'est toujours intéressant de mettre son œil un peu partout. Alors, Vézal insiste donc sur l'impression des planches qui ne sont pas de type commun et classique, et ne se bornent pas aux simples lignes de contour. C'est là le grand progrès. Connaissant son exceptionnel imprimeur, il lui répète de suivre les indications des modèles joints afin de bien révéler l'excellence artistique de ses dessins, souvent réalisés par ses soins. et cela pour une bonne impression de l'épaisseur des traits à certains endroits, unie à l'élégante graduation des ombres. Alors c'est pour ça que la presse de 1935 a été bien supérieure, parce qu'elle avait la puissance. Vézal indique aussi qu'il va venir prochainement à Bâle, espérant rester pour toute la durée de l'impression, dont celle du privilège impérial que sa mère doit envoyer directement à Bâle. Ensuite, il remémore la vigilance nécessaire vis-à-vis des contrefaçons, comme le prouve ce qui est devenu à l'édition de 1538 que je vous ai montré tout à l'heure, de ces fameux tabulae anatomicae sex, 6 planches anatomiques réalisées en large partie par vraiment Stéphane van Kalkar. Contrefaçons prouvant d'ailleurs leur valeur scientifique et leur succès. Alors, j'avais évoqué tout à l'heure le fait que dans le dessin, vous voyez, vous avez ces arcades qu'on trouve dans la région d'Abano, et là je suis dans la villa palladienne d'un archevêque important de Padoue, qui avait une magnifique villa, et il y avait des fresques qui étaient juste le tour de l'immense pièce dans laquelle on avait notre dîner de gala de fin de congrès. Et vous voyez les dessins de la région tels qu'ils sont souvent représentés dans les planches de Vézal. Et ça m'avait beaucoup touché. C'est pour ça que j'avais réussi cette photo, parce que c'était quand même relativement loin et je n'avais pas amené un appareil trop puissant. Alors l'impression commença dès le 1er octobre 1542 et fut probablement terminée en juin 1543. Vézal passa les 5 premiers mois de 1543 à l'université de Bâle, où il fit des démonstrations anatomiques, dont celle sur le corps du condamné à mort Jacob Carrère. Ben, ça c'était fréquent. Rembrandt, c'est la même chose. Celle qui représente, on sait plein de choses sur le c'est des condamnés à mort. Les démonstrations terminées, il monta lui-même le squelette, ce qui en fait la plus ancienne préparation anatomique subsistante au monde, toujours conservée au Wesselianum Museum de Bâle. Donc on peut toujours le voir. En juillet, le voilà à Bruxelles, où il reçoit des critiques sur sa fabrica, car on ne comprend pas surtout pourquoi il ne l'a pas fait imprimer par des imprimeurs italiens à la réputation connue dans toute l'Europe. Certes, Bâle est une ville de tolérance et de paix, mais les imprimeurs sont souvent des réformés, certes hautement réputés, et la guerre existe entre Charles Quint et François Ier, et ça dessert l'atmosphère. Examinons maintenant l'ambiance de la création de cette fabrica et le contexte de l'époque. Et à la fin, je me servirai surtout de mon exemplaire de ma bonne ville de Reims, dont je vous conterai aussi l'origine et son histoire. Alors, la Fabrica est un livre fort rare, je n'ose pas en dire le prix, qui varie selon le contenu, parce qu'il y a quelques exemplaires, soit qui sont coloriés, souvent au XVIIe siècle, soit qui possèdent deux planches mobiles en plus, qui fait que le prix peut varier entre 500 000 euros et 1 million d'euros. C'est un des livres les plus chers du monde. Il faut savoir qu'une dissection, maintenant je vais reprendre scientifiquement les choses, d'un cadavre dure 4 jours. Alors, vous avez remarqué, j'ai dit décembre quand il a donné les leçons, donc on travaille en hiver, et dans ma faculté à Reims, quand il y avait les dissections, on travaillait toujours l'hiver. On commence par le bas-ventre, avec les organes abdominaux. Alors, là, je vous montre des marginalia, parce qu'il avait pris un grand soin pour les lettrines, vous voyez, les petites lettres qui sont sur le côté, détaillées dans la vue grossissante, renvoie avec une précision diabolique, ce qui fait que pour l'imprimeur, c'était un travail très difficile. Alors là, vous avez les contrefaçons que je vous montre. Alors on imitait le livre, on prend celui du dessus est le bon exemplaire, celui du dessous est une contrefaçon. Et puis là, on va commencer les zones de dissection. Alors, on commence donc par le bas-ventre avec les organes abdominaux qu'on appelait la membra nutritiva, qui sont les premiers à se décomposer. Donc on commence par ce qui est le plus nécessaire. Puis au deuxième jour, après section du plastron sternocostal, c'est l'étude des organes thoraciques qu'on appelle la membra spiritualia. Puis c'est le ventre supérieur avec la membra animata, le crâne et le cerveau. Et le dernier jour, on s'occupe des membres. Ce qui paraît tout à fait logique. Et là, je vous ai mis un cadavre sur un livre de l'époque colorié qui montre bien le cloisonnement entre le bas avec les membranes, voilà, puis les deux, puis après on finissait avec le cerveau à la fin. Et puis il faut un arsenal pour faire tout ça. Alors donc, on appelle ça un instrumentarium. Vous avez là tous les, et c'est représenté dans la Fabrica, tout ce qu'il avait besoin, avec les maillets, les scies, les couteaux. Bon, parce que des fois, il fallait qu'il dissèque les mucs et qu'il puisse les tendre pour voir, être sûr, suivre les faisceaux des ligaments, etc. Donc, il a besoin de repères. Bon, c'est normal que je vous montre ça. Ça paraît horrible, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont les instruments de chirurgie. Et puis, ça n'a fait qu'évoluer vers le moyen de les rendre stériles. On insuffle avec des tubes les viscères et vaisseaux selon un procédé dû d'ailleurs à son maître Sylvius et on porte des ligatures. Je passe sur les lavages et autres macérations, voire dessiccations même au soleil. Mais avec Vessal et d'autres anatomistes, dont Léonard de Vinci, on les voit disséquer et observer de près et trouver que le texte galénique est loin de la vérité car il passe volontiers du semblable au semblable par une sorte d'intuition analogique formellement condamnée par Galien, qui lui se préoccupait seulement de l'utilité des parties, mais délaissant les questions d'organisation, de structure et d'explication des actes physiologiques. Galien ne cherche pas comment une chose est, donc l'anatomie, et comment un acte s'opère, la physiologie. Mais pourquoi une disposition a lieu et en quoi elle peut concourir efficacement à l'action? Donc ça, c'était l'erreur qui va être corrigée, bien sûr, par la suite. De cela, pourtant, Vessal a subi l'impérieuse et détestable influence d'une mauvaise physiologie sur l'anatomie, ce qui faisait que Vessal donnait évidentes des fonctions tout à fait hypothétiques, délaissant les structures dont il ne connaissait pas la fonction. Donc au moins sur ce plan-là, il n'est pas malhonnête. C'est pourquoi les galénistes et Vessal ont buté sur le problème majeur de la circulation du sang, ce que n'a pas fait Servet, car les galénistes, par exemple, tenaient le cœur pour un appareil en grande partie respiratoire. Comme le disait le génial Claude Bernard, ils connaissaient les deux extrêmes et ils établissaient une physiologie de la probabilité avec le reste. Alors Vessal quitte Padoue pour devenir archiatre de l'empereur, donc un des médecins attitrés de l'empereur tout en pratiquant encore son art médical et chirurgical. Donc voilà, sur une gravure de l'époque, en grand guerrier Charles Quint. Il devient donc le serviteur de Charles Quint, qui se considérait d'ailleurs comme un prince, ça c'est intéressant, de la maison de Bourgogne, dont il introduisit l'étiquette, la cuisine et le faste à la cour de Madrid, en cherchant toute sa vie à reprendre à la France ce duché de Bourgogne, devenu possession royale de la France depuis Louis le XIe, mon préféré. On sait que Vessal et l'empereur s'entretenaient en français. Et on sait aussi que Vessal n'était qu'en troisième position. Le premier était le médecin Van Beisdorp. Parmi les huit médecins officiels, qu'Henri Matisse d'ailleurs, avec un H et Y à la fin, rejoindra plus tard car il connaissait fort bien la pathologie rhumatismale, affection dont souffrait Charles Quint. Mais celui-ci est aussi atteint de lourdes insomnies et surtout de la goutte, et toute la descendance de Charles Quint, il a été fait une étude médicale très sérieuse autrefois sur la goutte dans sa descendance, et on les retrouve chez toute sa famille. C'est une affection très difficile à traiter chez ce monarque, à l'appétit insatiable, excluant toute velléité d'idées de régime, ce qui fait qu'il recourt volontiers aux charlatans qui sauront amplement en profiter. En août 1553, Vessal remit à l'empereur un exemplaire de la Fabrica, entièrement imprimé sur vélin. Alors je ne vous dis pas la taille du livre, parce que déjà le livre est épais à peu près comme ça, donc ça devait faire au moins le double. Qui conservait à l'université de Louvain fut hélas détruit lors de l'incendie de celle-ci au début de la guerre de 1914. Encore une grande perte. Puis Vessal retourne en Italie, invité, là c'est intéressant, par le duc de Toscane, Côme Ier. Je vous donne les dates, 1519-1574, dont le visage orne la tête du Neptune de la fontaine, la fameuse Biancone, proche du Palazzo Vecchio. Alors là, je l'ai mis pour qu'on puisse comparer. Voilà. Ensuite, il effectue des démonstrations à Pise, mais il repasse par Padoue, où son ancien assistant, Realdo Colombo, lui avait succédé, puis au début de 1544, il est à Bologne, où il exécute une démonstration sur le système veineux d'un cadavre en présence de l'anatomiste Bartolomeo Maggi, qui sont suivis d'ailleurs de discussions tout à fait stériles et à ses yeux, et c'est d'ailleurs rapidement qu'il fait un retour à Pise où il dissèque un juriste siennois, Marcantonio Bello Armato, découvrant une lithiase biliaire et une fistule cholécysto-gastrique. Et pour moi, le cas est intéressant, moi, ancien gastro-entérologue. À votre avis, comment un calcul de la vésicule, ça finissait toujours très très mal, soit avec une septicémie, mais si la vésicule enflammée avait la chance d'adhérer vers la peau, alors ça s'ouvrait à la peau, les calculs sortaient ainsi que la bile, ils essayaient de refermer, mais des fois ça sauvait la vie. J'ai vu un cas dans les cahiers, dans ma bonne ville de Reims, des élèves de Caquet, que Caquet avait sauvé en laissant d'abord l'écoulement, puis ensuite il a refermé progressivement tout ça. Voilà. Malgré une offre du duc de Toscane, d'une chaire à Pise, oui, il était quand même très chéré, il retourne auprès de Charles Quint, qui l'avait rappelé au moment où, très dépressif, ça c'est important, dans ce trait de caractère, il brûle tous ses papiers scientifiques, dont ses commentaires sur le Libri al Almansorem de Rhazes, ses notes sur Galien, et un formulaire thérapeutique qui développait un opuscule de Michel Servet, son ami. L'homme de la petite circulation. Donc ça aurait été formidable de voir comment Vésale avait pu apprécier cette découverte majeure. Vésale était aux bornes de découvrir la structure musculaire du cœur, ce qui est quand même pas négligeable. Profitant des quartiers d'hiver, des armées françaises et impériales, puisqu'on ne fait pas la bataille quand il fait trop froid, il retourne à Bruxelles se marier. Il assiste au combat de Saint-Dizier, Vitry-le-François, Soissons et Meaux, et embaume même le prince d'Orange, René de Nassau, décédé le 14 juillet 1544. Il obtient un franc succès sur une crise de goutte de l'empereur avec le fameux Lignum Sanctum ou le Smilax China, la fameuse racine de Chine, qui nous vaut son Epistola de Radicee Chinae. Alors c'est une liane herbacée qui avait plein de propriétés carminatives, etc. Et il a eu du succès avec ça, mais c'est peut-être pas la cause. Et il a peut-être bien mis au régime notre empereur, et il aurait peut-être bien fait. Alors, ce texte a été édité après à Bâle en 1546. Dès qu'il avait sorti une lettre ou un texte, souvent ils étaient édités quand il y avait un contenu médical. À la demande d'ailleurs de Giovanni Battista Canano, il est appelé en consultation auprès de François d'Est. Donc ça, ça t'est bien cher, François d'Est, n'est-ce pas, cher ami ? Arrivé récemment près de l'empereur, et Vésale partage avec Canano le fruit de leur découverte, dont pour Canano, les valvules de la grande veine azygose, les veines rénales et sacrées, ainsi comme on le voit, l'anatomie est en plein essor. Alors je passe sur les pérégrinations guerrières de Charles Quint contre les princes protestants allemands, mais au passage, Vésale fait nommer son élève Jérôme Cardan, médecin de Christian III du Danemark. C'est Cardan qui avait établi, et ça se faisait beaucoup à l'époque, ceci, c'est-à-dire l'horoscope de Vésale. Alors c'est intéressant pour ceux qui s'y connaissent d'examiner ça de plus près. Et vous avez donc le livre de Cardan avec un petit portrait de Cardan sur son ouvrage, comme on faisait souvent à cette époque-là. Ce dernier soigne alors des grands seigneurs, mais échoue sur le pied du cardinal Madruzzo. Il essaya de traiter aussi un ami qui lui est cher, Nicolas de Granvelle, qui était le chancelier avisé et ami intime de l'empereur, dont l'autorité et la fermeté étaient bien connues, ce qui n'empêcha pas pourtant Guillaume d'Orange de faire accéder à l'autonomie les provinces du Nord. C'est à cette période que Vésale prépare la seconde édition de sa Fabrica, donc entre 1555 et 1556. S'étant installé à Bruxelles grâce à l'appui justement d'Antoine Gravel, qui avait succédé à son père Nicolas. Vézal se fait construire une belle maison et il développe sa clientèle privée tout en réalisant des autopsies sur des cas pathologiques tels que cardiopathie, kyste de l'ovaire, hydrocéphalie et j'en passe. Il faut remémorer pourtant le siège de Metz, défendu par le duc de Guise, tentative qui sera abandonnée, mais c'est à ce moment même, à ce siège, que Ambroise Paré et Vézal furent face à face. Et après la bataille d'Hesdin, où Paré fut fait prisonnier, Vézal n'étant pas présent, notre Ambroise ne put s'entretenir qu'avec les autres chirurgiens de l'empereur. Parce qu'il y avait quand même une courtoisie, il a été libéré après. Disons, le corps médical des grands seigneurs de la chirurgie de la médecine de l'époque, leur nom rayonnait dans toute l'Europe. Et vous verrez d'ailleurs après pourquoi. Charles Quint, souffrant, regagne Bruxelles pour y passer l'hiver. Alors, en 1555, Vézal quitte le service impérial à un moment où il est particulièrement actif, diagnostiquant même un anévrisme de l'aorte, dont la réalité fut contrôlée par l'autopsie. Parce que le patient, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas les moyens qu'on avait de pallier à cet ennui en mettant un pseudo-vaisseau à l'intérieur. Et c'est aussi le moment où Philippe II reçoit l'Espagne, les possessions italiennes et les colonies américaines. En septembre 1556, Charles Quint abdique pour son frère Ferdinand, ayant nommé cependant en avril Vézal, comte palatin, et jamais plus ils ne se reverront, et c'est peut-être regrettable, mais c'est ainsi. Alors à Bruxelles, entré au service de Philippe II, dont je vous montre un portrait, toujours sur une gravure de l'époque, il soigne la princesse d'Orange, la future épouse de Guillaume le Taciturne, le comte aussi soigne le comte de Rennenberg, et son camarade d'études, Andreas Maasius, parce qu'on a eu retrouvé des lettres ou des témoignages de tout ça, c'est pour ça que je donne les noms. Les relations entre l'Espagne et la France s'améliorent par des mariages princiers, c'était bien coutumier de l'époque, et c'est lors d'un tournoi, et vous allez voir pourquoi c'est important, donné lors d'une telle occasion qu'Henri II est blessé par un terrible coup de lance le 30 juin 1559. Le duc d'Albe représentait alors Philippe II, et le duc de Savoie fit venir de Bruxelles Vézal. C'est pour vous dire que quand il y avait une assistance apportée à quelqu'un de la grande noblesse, ben, il mettait tous les moyens. Pour avoir son avis, bien sûr. Et la consultation fut donc partagée avec Jean Chapelain, le médecin d'Henri II, Dat Chacon, qui était le chirurgien du duc d'Albe, que vous retrouverez tout à l'heure, je vous en parlerai encore, Ambroise Paré et d'autres chirurgiens, mais vous savez, Henri II décéda le 10 juillet 1559. Alors, ça c'est une belle gravure qui montre le traitement roi, elle est un peu ultérieure, mais celle-ci est rare parce qu'elle a été coloriée au début du XVIIe siècle. Alors on voit Paré et Vézal, et d'autres chirurgiens et médecins, et le cardinal de Lorraine, qui est tout au fond, avec, on voit son le rouge qui est représenté ici. Parce que Charles de Lorraine, pour les Rémois, c'est le créateur de leur université. Donc pour nous, c'est un personnage clé. Alors Vézal reçut l'ordre d'accompagner en Espagne Philippe II à la mi-juillet 1559, et il a dû partir en même temps, malgré qu'il ne figurait pas encore sur la liste des médecins accompagnant le roi, bien que comte palatin. Et en effet, il était censé s'occuper des fonctionnaires flamands de la cour d'Espagne, d'autant qu'Antoine de Granvelle, son protecteur, n'avait pas encore rejoint Madrid et sera même renvoyé de son poste de conseiller de la cour en 1564. Alors, 1564 a été une mauvaise date. Son élève Fallop lui fait parvenir un travail, et je vous montre un portrait de Fallop, qui est assez beau, avec les œuvres qui sont concernées. Alors, je l'écris maintenant souvent avec les deux L et deux P, je trouve que c'est bien comme ça. Il fait parvenir un travail donc qu'il désapprouve beaucoup, mais peut-être pas de façon très honnête, sauf sur quelques observations pathologiques. Vézal est amené à donner son avis avec une grande clairvoyance à la demande du célèbre professeur en médecine padouan, Jean-Philippe Ingracia. Alors, les dates d'Ingracia, 1510-1580. Sur le cas du marquis de Terranova, c'est-à-dire Jean d'Aragon, atteint à Palerme, d'une plaie pénétrante par arme à feu et Vésale conseille le drainage pleural qui n'est pas accepté. Alors qu'il avait déjà réussi à opérer 3 cas d'empyème sur 4, donc il avait réussi 3 fois sur 4 à vider des abcès pulmonaires. Donc, dommage. Il rentre en conflit avec d'ailleurs le premier chirurgien espagnol, le fameux Daza Chacón, dont je vous ai parlé, dont on ne sait pas très bien les dates de naissance, en gros 1510-1596. Mais ce Chacón aurait soigné, et ça c'est amusant que je vous le signale, le dénommé Cervantes à la fameuse bataille de Lépante, où l'invincible armada espagnole a été vaincue dans le golfe de Patras et qui a eu plus de 20 000 morts espagnols à l'époque. Ça a été quand même une défaite terrible. Et on sait aussi qu'il fut consulté, grâce à Nobili, l'ambassadeur de Florence, parce que les ambassadeurs racontaient tout, donc il faut regarder toute cette correspondance pour savoir tout ça, dans une lettre d'ailleurs du 1er mai 1562, qui dit que les chirurgiens espagnols essayèrent d'écarter Vésale, et ceci dans une lettre du 1er mai 1562 à Côme de Médicis. Alors là, il y a de l'italien, mais j'ose pas le dire. Esquisti medici spagnoli hanno indugiato sino a ora a volare il Vésalio. D'ailleurs, ils veulent dire qu'ils essayent d'écarter Vésale. Voilà. Ah ben, il n'est pas bon, hein, forcément. Hein. Oui, tu veux le dire en... Non, c'est bien, tout en haut de la page. Tu vois ?
Voilà. Allora, questi medici spagnoli hanno indugiato sino a ora a volare il Vésalio. E se médecins espagnols ont hésité, indugiato, par exemple, sino a ora jusqu'à présent à voler,
le fait de oui voilà.
Ces médecins espagnols ont hésité.
Voilà. Mais ils ont tout fait pour l'écarter, voilà.
Tout fait pour l'écarter.
Ben oui, bien sûr. Bah tu sais, il leur faisait de l'ombre peut-être, alors ça bon. Au contraire, Vésale eut de bonnes relations avec les anatomistes espagnols. Il a laissé beaucoup de marques. Parce que vous verrez que le livre de Vésale a été très rapidement imité par le fameux anatomiste Valverde. C'est un très bel ouvrage, peut-être qu'il peut être dans une des bibliothèques de votre région et ça vaudrait la peine de le regarder. Et parce que certains d'entre eux ont été des camarades d'études à Paris chez le fameux Sylvius. Par exemple, Ximeno, qui devint ensuite son élève à Padoue. Et aussi cet autre anatomiste espagnol, Luis Collado. On sait qu'il donna ses soins aussi à l'ambassadeur britannique Sir Thomas Challoner et les papiers officiels britanniques entre 1563 et 1564 font très souvent allusion à Vésale. Maintenant, on va aborder la fin de sa carrière avec l'histoire du pèlerinage à Jérusalem et les motifs pour lesquels... Alors, je vous montre là Paris, car il faut se rappeler qu'il a été quand même le médecin de 4 rois de France. Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Alors, j'aborde ça parce que la fin de la vie de Vésale, ça a été très pénible. Parce qu'il a dû quitter la cour d'Espagne. Et les faits pour lesquels il a dû la quitter sont mal connus et très contradictoires. Et notre illustre Amboise Paré, dans ses œuvres, relate au chapitre que je vous ai mis là, une explication peu certaine. Elle est dans le 24e livre de l'édition de 1598 qui est la plus complète. Mais vous pouvez regarder ça aussi dans la 1575 ou alors dans celle de Malgaigne. On ne sait si cette ouverture précipitée d'un supposé cadavre d'une dame de la cour ou d'un gentilhomme a vraiment eu lieu. Mais on rapporta que la famille aurait vu encore le cœur battre. Mais cela a engendré pour Vésale de devoir comparaître devant la redoutable tribunal de l'Inquisition pour homicide et il fut condamné à mort. Sensible aux prières de la cour, parce que les gens de la cour adoraient Vésale, ils soignaient bien les gens de la cour, Philippe II donc est sollicité et grâce à son autorité suprême, il aurait fait commuer la peine en un pèlerinage en Terre Sainte. Cela n'est qu'une hypothèse du pourquoi, mais en fait, il est vraiment parti en Terre Sainte. Il était aussi très dépressif à cette époque, restait nostalgique de l'Italie, je le comprends, et des Pays-Bas, je le comprends moins. Sa situation était depuis un bon moment précaire en Espagne. On sait qu'il aurait désiré voir également Chypre, et à cela s'ajoutaient les infidélités, j'aime bien le terme, et humeurs tracassières de sa femme. Oh, voilà. Vous voyez comme quoi ça peut aller jusqu'en Terre Sainte. Hein. Le botaniste Clusius, Charles de Lécluse, grand botaniste français, qui venait d'arriver à Madrid le jour du départ de Vézal, indiqua aussi que Vézal, toujours dépressif, se remettait mal d'une maladie. Alors, muni d'un passeport donné par Philippe II, dont il gardait la confiance, Vézal passa la frontière franco-espagnole et atteignit Sète, où il quitta sa femme et sa fille qui regagnèrent Bruxelles. Par Marseille, puis Gênes, il arriva à Venise, parce que là, les grands navigateurs de l'époque dans ce bassin méditerranéen, c'est les Vénitiens, où il retrouva d'ailleurs des amis qui lui sont chers, les Contarini, les Navagero et l'ambassadeur de Philippe II, Pablo Tiepolo, auquel d'ailleurs Vézal avait confié il y a 2 ans une réponse manuscrite pour le fameux Fallope, suite à la sortie de son livre. Ce dernier mourut rapidement d'une tuberculose, le Fallope malheureusement, sans avoir connu d'ailleurs cette réponse de son maître Vézal, que Francesco dei Franceschi s'empressa de publier, mais que Vézal ne put finalement même pas corriger en raison de ce qui va devenir. Vézal quitta Venise en 1564 sur le navire de commandement de Malatesta da Rimini, accompagné aussi du comte d'Otière, Giacomo Malatesta, donc il s'en va bien encadré par des gens sachant bien faire la guerre. Alors le Malatesta, le Jacques, c'est 1530-1600. Les étapes de l'époque pour gagner Jérusalem étaient l'île de Zante, Candie, l'île de Rhodes, Chypre et Jaffa. Pas de doute sur la réalité de ce voyage, car 4 lettres en témoignent, avec l'une de Philippe II à son ambassadeur à Venise, 2 de l'ambassadeur espagnol à Venise, à Philippe II, et surtout la dernière du gardien des lieux saints de Jérusalem à Philippe II, qui témoigne bien de la venue vraiment effective de Vézal. Pour revenir à moindre frais, malgré la proposition du roi d'Espagne qu'il retourne sur un vaisseau vénitien, Vézal partit sur un navire de pèlerins, où il y a eu des décès engendrés par la mauvaise nourriture et des maladies. On pense au scorbut et à toutes sortes de fièvres, parce qu'on est aussi dans le bassin méditerranéen. D'autant que le navire a dû affronter une forte tempête pour finalement échouer. Vézal serait mort d'une fièvre sur une île ionienne à Zante, dont j'ai retrouvé une petite gravure, c'est-à-dire Zakynthos en grec, sur lequel je crois actuellement débarquent de nombreux réfugiés. Voilà. Ça s'est passé le 2 octobre 1564, puis il a été enterré dans l'église Santa Maria delle Cruzzi, démolie en 1593, non loin, dit-on, alors ça c'était curieux, je ne savais pas, de la tombe de Cicéron. Et ça doit être juste, parce qu'il peut très bien avoir été assassiné et transporté ailleurs pour l'enterrer. Bon, on sait ces faits, quelques détails, par Johann Krato von Kraftheim, médecin des empereurs Ferdinand, Maximilien II et Rudolf II, qui savait tout sur les nouvelles de la cour de Madrid. Il est donc bien triste de voir périr dans le plus grand dénuement un tel génie de la connaissance de l'anatomie humaine. Alors, un peu pour clôturer ça, je vous ai mis des belles images. Alors voilà une planche de myologie. Vous voyez, alors ces squelettes donnent l'impression de vivre, et c'est ça qui est épatant. Et vous avez les fonds, vous vous rappelez que je vous avais montré quelques arcades. La rivière a été reconnue parce qu'elle est proche de...
La myologie.
Ah ben, myologie, étude des muscles, myos. L'étus, voilà. Myologie, c'est vrai, il faut que je donne. Voilà, mais voyez bien tous les muscles, comment ils sont mis en évidence. Et aussi les tendons. Voilà.
Et qu'est-ce qui sort?
Là, mais c'est un muscle qui a été disséqué et qu'on monte. C'est le fessier qui est ici. Voilà. Bon. Alors, vous avez aussi, il faisait des planches. Et là, je vous ai fait passer l'ouvrage. Vous avez vu que je... Alors, les planches montrent le ventre non ouvert. On procède après à l'ouverture, le péritoine, les intestins, l'estomac, etc. Ensuite, l'aorte, les deux reins, etc. Donc, vous avez une dissection progressive avec une grande justesse. Alors, je vous montre quelque chose de beau pour montrer que c'est quand même artistique. Parce que là, vous avez l'épitome avec un homme et une femme représentés. Dans le fameux, là c'est une réédition parce qu'elle était plus belle pour l'impression, parce que 1543 il est dans la Fabrica, mais il existait avant dans l'épitome, donc en 1538. En 1538, il existait avant dans l'épitome de 1538. Et je trouve que les proportions de l'homme sont idéales et ceux de la femme c'est parfait. C'est vraiment. Nous aimerions bien être comme ça. Mais là, ce qui m'a rassuré, c'est qu'on ne voit pas, j'aime bien ça parce qu'on ne voit pas le ventre musclé, on voit celle d'un homme comme on en voit maintenant, mais pas ces ventres musclés que faisaient les Grecs dans leur statuaire. J'ai toujours essayé d'avoir un ventre comme ça, on n'y arrive pas quand j'étais jeune. Alors là, je vous montre la page de titre. Alors vous avez des ébauches par... pour préparer la planche donc dans l'atelier du Titien. Alors là vous voyez une esquisse, vous voyez les bouts, puis là ça devient plus précis, le cartouche pour mettre où ça a été imprimé, balle, etc. Et là il y a des détails qui permettent, et là je vous en parlerai dans l'exemplaire de Reims, de dire, même si c'est une première édition, si c'est vraiment une toute première édition, ou c'est une déjà qui se modifie, ça change tout. Alors, on a dit à un moment que Servet se retrouverait derrière un poteau, mais ce n'est pas une certitude. Alors, je vous montre un dessin aussi de Vésalpe, de sa main, du système Porte, qui est fait là. C'est quand même émouvant de voir, il dessinait très bien. Alors maintenant, je vais changer, donc il faut que je change, je vais interrompre ça, peut-être ici, voilà. Je pense qu'en mettant ça, ça va aller, et je vais prendre la suite. Voilà, il va se mettre en route, et alors maintenant, je vais me servir de l'exemplaire de Reims, car notre ville en a un, et je vais vous en raconter un peu l'histoire. Au point de vue temps, bon, ben ça va, je pense, alors ça devrait aller. Puis c'est quand même, je pense, pas inintéressant. Alors, là, vous l'avez en grand? Non. Alors, il faut que je... Alors, je mets à diaporama. Attends, tu dis... Oui, là-dessus. Voilà, je clique. Tu vas partir de la diapositive. Voilà. Oh, c'est beau, la science. Mais moi, j'aurais bien voulu voir les petits mots, ça fait rien. Alors, là, je vous montre donc notre exemplaire de Reims à une reliure, là, qui est assez typique du XVIIe. Mais là, elle est ancienne. Alors, la ville des sacres des rois de France, sauf du premier des Bourbons, Henri IV, a cette chance de posséder dans son fonds ancien un exemplaire de la Fabrica de 1543, du célèbre Vésale, donc, livre fondateur de l'anatomie moderne, et c'est de l'histoire de ce bel in-folio que je souhaite vous entretenir. Il fait plusieurs kilos, quand même. Ce précieux exemplaire est enregistré dans la réserve avec la cote suivante, pour ceux qui voudraient le voir à Reims, réserve GG27. Notre présentation se fera en trois parties. La première consistera à vous démontrer que ce livre est bien une première édition dans sa toute première conception, et ça sera une véritable dissection. Dans la seconde partie, on vous évoquera sa provenance avec diverses preuves, puis dans la dernière partie, on vous expliquera comment il fut offert à la congrégation des Minimes de Reims et en quoi cela avait une importance pour la communauté des chirurgiens de Reims. Voici l'exemplaire de Reims dans une reliure sobre et solide de la fin du XVIe siècle ou tout début du XVIIe. L'état du livre est assez remarquable, parce que c'est un papier chiffon du XVIe siècle, dont Vésale lui-même vantait la qualité et la solidité. Alors, à quelle version Princeps a-t-on affaire? Au XVe siècle, au fur et à mesure de l'impression, des ajustements et corrections étaient exécutés en permanence par l'atelier d'imprimerie, celui de Jean Porin, de son vrai nom Jean Herps, et il en sera ainsi pour toute la fabrica, mais chaque feuillet de notre exemplaire rémois a été réglé avec les marginalia, démontrant déjà le soin que prenaient Oporin et ses aides pour centrer à la perfection l'impression de chaque feuille. Alors, ben, il passe ainsi, voilà. Alors voilà la reliure, que vous voyez qu'une reliure simple. Et voilà maintenant, vous voyez, l'exemplaire est réglé sur, vous voyez bien ici, le trait, et le trait ici, voilà. Les marginalia sont complètement mis à l'abri, et tout le livre est fait un peu comme on faisait dans les manuscrits. Hein, on est dans une période où là, on voulait vraiment centrer le travail. Ce que vous voyez, la lettrine qui est en haut à gauche, c'est des petits bois qui ont tous été répertoriés. Alors, l'exemplaire rémois est vraiment une toute première édition selon les travaux approfondis de Michael Horowitz et Jack Collins, eux-mêmes s'appuyant sur des recherches précédentes de Harvey Cushing et de Richard Wolff. Harvey Cushing, le grand chirurgien qui est un des premiers à avoir opéré des tumeurs cérébrales. Et leur travail a été publié dans le journal d'histoire de la médecine et des sciences concomitantes en 1984. Ainsi, la certitude d'une édition Princeps nous est déjà donnée par la célèbre page de titre que voici, qui révèle que dans le cartouche du bas de la page, le mot Gratia qui révèle que dans le cartouche de le mot Gratia est coupé par un tiret après le Gratia tiret, alors que dans la version légèrement ultérieure, mais toujours de juin 1543, le Gratia termine la ligne avec le E et est remplacé par un sigle, la lettre un petit peu grecque, hein, une sorte d'oméga à l'envers. Alors je vous montre, voilà, vous voyez Gratia, là dans la première édition, et attendez, je vais revenir dans l'autre parce qu'on va avoir besoin de ça, et là vous avez la certitude qu'on a à faire un versus A. Bon. Ensuite, le lieu d'impression, Basilae, offre un point final, médian, bien au milieu du E. Ce Basilae a été recentré et plus compressé par la suite. Il a été beaucoup plus contracté dans des éditions que j'ai consultées par la suite. L'édition de 1555 offre une toute autre présentation. À la page 3, verso de la préface, à la ligne 21, on lit par exemple le mot « principis » avec un « j » fallacieux qui sera vite rectifié rapidement. Dans la lettre Oporin, la lettre « s » signifiant « salutem » est en regard de la lettrine « a », mais le nom de Nicolaos Topio. Alors je vous ai mis ici différentes choses que vous lisez. On lit donc, ici vous avez le « s » devant la lettrine, hein, qui vous permet salutem en élan, regardez, mais le nom de Nicolaos Topio verra sa taille se réduire par la suite, et vous le voyez peut-être dans cette diapo, mais il faudrait que je mette, et ça serait très lourd de vous mettre toutes les comparaisons. Et à la fin de cette lettre, toute la page est couverte, alors qu'ultérieurement, en changeant pour d'autres caractères italiques plus petits, il reste une demi-page blanche, 73 lignes au lieu de 97. Donc là, vous retrouvez, vous voyez, la lettre couvre jusqu'à la fin de la page, alors que dans les autres exemplaires, pourtant de la même année, on voit seulement la moitié de la page qui est remplie. Donc ça, c'est important. Il existe encore une différence quant au portrait un peu aquarellé dans l'exemplaire de Reims, parce que l'exemplaire de Reims a aussi été un peu aquarellé. Et celui-ci est parfait, car il n'y a aucune défectuosité dans l'encre. Alors, je vous ai mis une petite flèche, parce que dans les exemplaires ultérieurs, il est arrivé un petit malheur sur le bois, et à ce niveau-là, il y avait une petite encoche. Et dans l'exemplaire de Reims, elle n'existe pas, ce qui prouve que c'est vraiment une des toutes premières versions de l'impression par Oporin. À cela s'ajoutent des erreurs de pagination, comme celle de la fin du livre, qui se voit imprimée comme page 659 au lieu de 663. On peut signaler aussi à la page 300, au niveau de la marginalia en italique, en regard de la très belle lettrine L, une impression différente sur le Deosibus. Je pense que vous allez l'avoir ici. Hein, vous ferez, voilà, vous regarderez bien cette petite lettre-là, le Deosibus, dont une variante est réalisée par le remplacement des deux S par une sorte de double S, un peu de style germanique, ainsi que le remplacement de la majuscule de Divi Hippocratis, et je vous ai mis une autre flèche. Ici, vous voyez, il y avait cette faute, elle a été corrigée. Alors, vous voyez qu'il faut regarder les livres de très près pour en voir le... Bon. Hein, ben ça c'est, les choses, c'est de la dissection, il faut faire très attention à tout. Ben oui, je vous avais prévenu qu'on allait disséquer. Cependant, on ne trouve aucune planche à volet mobile. Alors, si on avait eu un exemplaire à volet mobile, là, il y avait deux chambres fortes qui étaient créées pour le livre. Alors, dans les exemplaires et moi, comme dans quelques exceptionnels et rarissimes exemplaires, j'ai donné quelques bibliographies là-dessus. Sur la page de garde... Là, c'est intéressant. Collé du contreplat existe un ex dono, dont voici l'intitulé. Ex dono illustrissimi domini domini Guillemi de Vergeur comitis de Saint-Souplet. Et un peu plus bas vers la gauche, orate proeo, et plus en dessous d'une autre écriture, obit 16 janvier 1665. Alors en fait, là, ça a été inscrit par... le donateur, mais c'est la bibliothèque des minimes qui inscrit tout ça. Il y a son obituaire de 16 janvier, et on prie pour lui, et on met que ça a été donné par Guillaume du Vergeur. Vous savez qu'à Reims, on a un hôtel très beau sur la place du Forum qui s'appelle l'hôtel Le Vergeur. C'est cette famille. Sauf que là, ça remonte juste après le Grenetier qui a créé cette famille. Grenetier, et puis qui touchait l'impôt sur la gabelle, donc le sel à l'époque ça rapportait. Nous avons cette chance d'avoir le nom donc du donateur de ce prestigieux ouvrage réalisé sous l'œil de Vézal. Il s'agit du seigneur Guillaume de Vergeur, effectivement comte de Saint-Souplet, dont la famille doit en partie sa réussite au dénommé Nicolas de Vergeur, Grenetier et aussi le percepteur donc de la gabelle. Cet impôt sur le sel. En fait, Guillaume est le frère puiné de Nicolas, mais leur patronyme est devenu par la suite le Vergeur, comme le rappelle l'hôtel Rémois, portant le nom de la famille, sur la place du Forum. Effectivement, leurs terres et domaines sont fort vastes autour du village actuellement dénommé Saint-Souplet-sur-Pie. Finalement, grâce à des travaux anciens de notre Académie nationale de Reims, j'ai retrouvé que Guillaume le Vergeur, comte de Saint-Souplet, fut fait chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1642 et qu'il fut aussi grand bailli du Vermandois, dont les armes sont d'azur, etc., avec trois mouchetures de sable et accompagné de trois étoiles d'or. Donc notre fabrica rémoise a une bien belle provenance ancrée dans l'histoire champenoise. Alors, je vais poursuivre maintenant en étudiant, c'est intéressant, la donation révérend père minime de Reims, le rôle par rapport à la communauté des chirurgiens de Reims, et après je n'abuserai plus de votre gentillesse. En effet, sur la page de titre de l'exemplaire rémois, dans le cartouche supérieur portant le nom d'André Vézal et le titre De humani corporis fabrica libri septem, une inscription manuscrite nous indique la provenance ex bibliotheca conventus remensis ordinis minimorum. Donc vous l'avez devant vous écrit en bas. Donc notre exemplaire de la fabrica a été donné par Guillaume le Vergeur au couvent des minimes de Reims par deux fois. Nous notons que Guillaume le Vergeur se voit inscrit dans le registre de l'obituaire qui renferme les grands bienfaiteurs et ou des personnalités du couvent. Alors là, on a encore un ex dono sur un autre livre qui est très intéressant et qui les minimes notaient tout. Cela m'a poussé à regarder vers ce qui reste d'archives du couvent des minimes de Reims, dont je vois auparavant vous évoquer quelque peu l'histoire à Reims. Ce couvent est situé pratiquement au regard du transept sud de la remarquable abbatiale Saint-Rémy. Alors, je vous ai mis sur un plan du XVIIIe siècle, enfin du début du XVIIIe, vous avez l'abbatiale qui est là, la cour Saint-Rémy et le couvent des Minimes qui est là. Et après, c'est les fortifications de la ville et on s'en va. Là, il y a une porte. Et puis après, vous avez là-haut l'autre abbatiale Saint-Nicaise, très importante aussi. Alors là, c'est les bénédictins de Saint-Maur. Ce couvent donc, et en regard de cette, et je vais vous montrer même tel qu'elle a été, le couvent tel qu'il a été dessiné autrefois. Alors, Saint-Rémy était assez séparé autrefois de la ville de Reims, avant que ça ne soit englobé par la, au XVIIIe, au XVIIe siècle, dans une seule enclave fortifiée, il y avait une séparation. Les guerres de religion avaient engendré d'effroyables ravages et réduit ensemble le couvent des Révampères Minimes de Bracancourt, près de Blaise en Champagne, dans le diocèse de Langres. En 1569, Antoinette de Bourmont, mère du célèbre cardinal archevêque duc de Reims Charles de Lorraine, que je vous ai montré tout à l'heure au pied d'Henri II, qui est le fondateur de notre université en 1547, selon la bulle papale, demanda alors à ce dernier de l'aide pour installer les Minimes près de Reims. En janvier 1572, il rencontre et convient avec le provincial des Minimes, le révérend père Joseph Le Tellier, aucun rapport avec le jésuite, de créer un monastère sur les fonds de l'abbaye Saint-Rémy de Reims, avec le consentement de dont Nicolas Chertan, administrateur perpétuel du prieuré de Saint-Côme et d'Amiens, qui jouxtait l'abbatiale Saint-Rémy, lieu qu'il comptait offrir aussi aux Minimes. Alors, comme ils étaient d'accord, ça pose aucun problème. Alors, ces derniers prennent donc la place de l'ancien prieuré Saint-Côme et d'Amiens, mais veillent à garder toujours un autel consacré à leur dévotion. Et vous savez l'importance de ces deux personnages comme saints guérisseurs et protecteurs pour le monde médico-chirurgical. Et là, je vous ai mis un truc rare espagnol, très 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 peu connu, d'une opération sur un malade d'ailleurs endormi. Alors la représentation n'est pas aussi belle que la peinture et on voit que la jambe du mort qui est noire, hein, vous voyez la jambe du mort noire est remise alors qu'ils ont été le déterrer, mais ils ont été remettre l'autre sur le mort. Lui il a une jambe blanche. Ben ça, c'est ce qui fait que c'est là quand même la première prothèse sur un mort réussi. J'en connais pas d'autres, c'est assez rare ça. Non, mais c'est assez étonnant. Mais l'ensemble du tableau est assez extraordinaire. Alors bien sûr, la Vierge est complètement concernée et on les reconnaît bien tous les deux. D'abord, il bénit, ça c'est souvent quand il fait, donc il fait appel au Christ, hein, évidemment. Et puis on connaît l'autre qui a la drogue, il y a derrière le petit melon quand on voit le tableau tel qu'il est. Aussi un détail que je vous montre qui est encore plus intéressant pour les chirurgiens, c'est son étui d'instrument, un pénarole. Ça s'appelle un pénarole. Et il mettait les instruments de première urgence dans ce pénarole. Voilà. Donc je pense que ce tableau méritait d'être connu. Alors, les chirurgiens...
Madame pense que ça ne pouvait pas être possible de faire des... À cette
époque-là. Mais bien sûr que non. Mais le miracle, ça existe. Et les miracles, ça existe. Et il y en a certains... Vous savez, il y en a certains à Lourdes qui continuent de poser des problèmes. Même si on est arrivé à induire une réaction cérébrale, il se passe quelque chose qui fait que quelqu'un qui avait une très grave maladie mortelle se trouve guéri. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages très sérieux là-dessus. On en débat des fois entre nous. Quand on sait qu'il s'est passé des choses, on se renseigne. Avant que le service médical de Lourdes ne déclare une guérison inexplicable, je ne peux pas vous dire tous les examens que les gens ont. Mais alors voilà ce qui se passe. Donc, on garde un hôtel pour Saint-Côme et Saint-Denis, mais les Minimes, à peine établis, un incendie monstrueux lieu le 15 septembre 1580, qui ravage entièrement le couvent. Heureusement, les libéralités du roi Henri III, de l'archevêque Louis de Lorraine, de l'abbé de Saint-Rémy, mais encore des chanoines du chapitre métropolitain de Reims, Et ce sont des gens immensément riches, les chanoines. Ils sont 90. Et avec des prébends, des fortunes colossales. Mais encore des chanoines donc de Reims, mais aussi des dons de bourgeois, voire aussi le fruit d'aumônes, dont font que Louis de Lorraine posera la première pierre en 1583. Et aussitôt, c'est la vie austère de cet ordre qui reprend, car aux trois vœux traditionnels de charité, obéissance et pauvreté s'ajoute un mode de nutrition très sévère, car les minimes sont strictement végétariens, donc un régime même sans œufs, lait et fromage. Donc c'est vraiment, oui, végétalien si on veut, mais on en est là. Cependant, les minimes sont très studieux, savants et pourvus souvent de prédicateurs remarquables, donc recherchés. La consécration de la nouvelle église en l'honneur de la Vierge et du fondateur de l'ordre, saint François de Paul, aura lieu plus tard, en 1630, par Henri Clos, l'évêque de Chalon-sur-Marne, qui œuvre à la place de Louis de Lorraine, indisponible. L'église possède quatre chapelles, dont l'une reste dédiée aux Saint-Côme et d'Amiens. Pour cette nouvelle construction s'ajoutent les apports de certains donateurs, comme Charlotte de Raponel, veuve de Messire du Drac, conseiller du Parlement, et écoutez bien, et comte de Saint-Souplet. Donc voilà. Et ainsi que Marie du Drac, sa fille, veuve du comte de Saint-Supplé, donc des membres de la famille de Vergeurs, et on leur doit en 1610 le frontispice de l'église où leurs âmes figurent avec celles du comte de Saint-Supplé. Voilà pourquoi cette famille a tenu à aider les tout petits frères, comme on dénommait les Révérends-Pères Minimes de Reims. Leur couvent, qui se situait au sud de Reims, en regard du transept sud de l'abbatiale Saint-Rémy, a disparu, laissant peu de traces. Mais son souvenir est rappelé par une rue Ferry, non cher au Rémois, car ce révérend père minime, le père André Ferry, c'est à lui que l'on doit la machine élévatoire des eaux provenant de la rivière Velle, en fait un système hydraulique qui alimentait les fontaines de Reims, offertes grâce à la générosité du chanoine métropolitain Jean Godineau, qui lui-même est aussi le père du premier centre anticancéreux au monde. J'ai eu encore une autre chance en retrouvant deux manuscrits enregistrant. Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà, vous aviez, il reste encore à Reims, ce bâtiment, là, qui est le réservoir d'eau. Là, c'est une des fontaines, celle que, la fontaine qui était proche d'ailleurs des minimes, c'est normal que j'ai choisi celle-ci. Et alors, il nous reste encore à vous parler, dans la bibliothèque des Minimes, dont on possède la trace, on a deux manuscrits. L'un est le manuscrit 2010, qui est à la bibliothèque de Reims, l'autre dans les archives. Et on s'aperçoit qu'ils avaient 6718 volumes. Alors, là, vous avez la fondation du couvent à Reims par le cardinal Charles de Lorraine, et puis le catalogue des livres. Et là, dans le catalogue des livres, j'ai trouvé tout en haut quoi ? Andrea Vesalis, Scholae Medicorum, etc. La trace de notre livre. Voilà. Et ça nous révèle, alors il y a dans le livre la rubrique mathématiques, sciences, médecine, etc. Et la présence donc de cette fabrica de Vesale, offerte par le sieur Guillaume du Vergeur. Donc ça, c'est quand même assez émouvant. Alors, il nous reste à vous évoquer pourquoi ce couvent et son église avaient une place particulière pour la communauté des chirurgiens de Reims. La présence ancienne d'un hôtel pour le culte dévolu aux Saint-Côme et d'Amiens faisait que le 27 septembre de chaque année était célébrée la messe anniversaire de ces deux saints protecteurs, messe dite par l'un des révérends pères minimes, jusqu'au moment du 26 septembre 1726, où pour imiter stupidement les chirurgiens parisiens, il fut décidé par la communauté des chirurgiens de Reims que les pères Cordeliers assureraient cet office, d'autant que le couvent des Cordeliers de Reims leur était proche. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils remontaient quatre rues et ils se retrouvaient là. Mais c'était bien ingrat vis-à-vis des minimes. Tout ça pour imiter les Parisiens qui, eux, avaient leur messe anniversaire Saint-Côme et d'Amiens par les Cordeliers qui étaient, quand vous allez à la faculté, vous avez encore le couvent des Cordeliers qui était. Alors, en guise de conclusion, on peut vous expliquer maintenant le pourquoi de cette présence de cette fabrica dans les collections municipales. Ben, c'est assez simple. C'est un vol manifeste. Il faut bien le reconnaître que la ville de Reims, à la période révolutionnaire, a agrandi la bibliothèque municipale en capturant tous les biens des communautés religieuses, dont leurs bibliothèques et diverses œuvres d'art. Ce fut bien le cas pour l'ouvrage de Vézal appartenant au couvent des Minimes de Reims, et s'est vu marqué sur la page de titre d'un cachet révolutionnaire. Maintenant, il me reste à vous remercier de votre écoute et aussi du fait que ce travail sur l'exemplaire et moi de la Fabrica de Vézal m'a permis de faire de fort belles découvertes locales. Voilà, merci beaucoup. Oui, vous le rallumez, oui, oui. Un quart d'heure, c'est bien, hein, hein, pour le plan de l'horaire, ça vous va. Oui, tenez, mettez-le. En... Il faut l'allumer, rallumez-le. Je l'ai éteint.
Alors, nous sommes ravis, renversés par un exposé aussi brillant qui nous a évidemment appris beaucoup de choses sur l'époque. On réfléchit quand même aux médecins de Molière, tout ça. Pourquoi ont-ils été aussi ridiculisés dans les pièces du dit Molière? C'est une chose que je ne peux pas accepter.
Alors, je peux vous lire, je vous l'expliquerai. Bon, Molière a eu la mauvaise idée de louer son appartement à Fagon, le médecin de Louis XIV, et puis très bon spécialiste des plantes médicinales en plus. Et comme il payait jamais son loyer, eh bien, ça posait des problèmes. Il était toujours à sec. Alors, il était assez habile, parce que Fagon allait voir le roi, très souvent, parce que c'était lui quand même qui signait, sur quoi je vous recommande d'ailleurs l'ouvrage de notre ami Pérez sur la santé du roi. C'est un ouvrage formidable, parce que le journal de la santé de Louis XIV mérite des études approfondies. Alors, il allait voir donc le roi en disant, vous savez, Majesté, j'en ai assez, il ne paye pas son loyer, tout ça. Alors c'était Louis XIV qui payait à sa place. Mais Louis XIV, il savait être un monarque, il faisait sentir à Molière, dites non, heureusement que je suis là, parce que ça, cette affaire va pas. Alors, il se vengeait de Fagon en le ridiculisant les médecins, ce qui était très facile. Et d'ailleurs, il a une triste fin, parce que mourir d'une hémoptysie sur sa chaise, qui est d'ailleurs bouleversante, parce qu'on voit le sang de Molière sur la chaise, c'était dommage. Voilà. Ça vous explique beaucoup de choses. Mais vous savez, la cour, c'était un monde redoutable. Je vous le laisse.
Y a-t-il quelques questions pour parfaire votre savoir? Quelqu'un veut-il parler? Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses.
Oui, oui,
parce que c'est remarquable. Donc, faut-il comparer ça
actuellement, les
équipes médicales sur les sites chirurgicaux actuels?
Ah oui, ils font beaucoup de choses, ils vont y...
Oui.
Ah ben...
C'est le départ, quand même, c'est le départ.
Hein. C'est... Bon. Voilà. Je vais partir en vous faisant une réflexion. Imaginez ce que serait notre médecine actuelle si j'enlevais les polymères et tous les produits plastiques. Voilà, je vous laisse à cette réflexion. Hein? Ah oui, oui, c'est inexpugnable. Bon, c'est, bon. La médecine, elle évolue avec les ingénieurs, avec mon père. Hein? Alors, les prothèses, j'ai cité Paré.
Non, mais
oui, oui. Mais oui, oui, certaines prothèses, il y a des téflons, les produits comme ça, les fausses artères, tout ça, c'est. Mais même un cœur artificiel, aux trois quarts, c'est des matières polymères et plastifiées.
Heureusement pour nous.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà. Alain.